Au cours des derniers jours, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Elon Musk ont rencontré le président élu Donald Trump. Alors, je vais développer cette thèse. Cette chronique en sept thèses s'intéresse d'abord, première thèse, à ce que le cinéaste Sergei Eisenstein dit en ces termes, à savoir que le cinéma, il est l'inventeur du montage abstrait au cinéma, il est donc l'inventeur du montage et peut-être l'inventeur du cinéma, Eisenstein. Eisenstein dit, il s'agit non pas des phénomènes, mais des enchaînements et des associations. Travailler sur les enchaînements et les associations. C'est ce que le philosophe Gilles Deleuze appelle des agencements. Nous vivons, nous sommes pris dans des agencements qui sont autant des agencements machiniques, de machines branchées les unes aux autres, c'est notre monde. Après tout, Bezos, Musk et Zuckerberg sont des hommes qui ont tous en commun d'inventer et de développer de puissantes, parmi les plus puissantes machines, les automobiles, la vente par Internet et les réseaux sociaux, les plus puissantes machines probablement jamais inventées et les plus planétaires. Donc nous sommes pris dans des agencements machiniques. Et la question qui se pose, à un philosophe comme Gilles Deleuze par exemple, c'est celle des agencements collectifs qui sont bien sûr les discours, les idées, la circulation des idées, bref, tout ce qui va avec le savoir et le partage du savoir. Ça, c'est la première thèse. La deuxième thèse, ça serait de faire le constat, avec le philosophe Bernard Stiegler, par exemple, que nous sommes dans une société, un univers en voie de désagrégation avancée. C'est ce qu'il appelle la misère symbolique, la désaffectation des sociétés qui sont travaillées par le discrédit et l'absence de vergogne. Toute l'œuvre de Stiegler tourne autour de cela. Parce que la valeur collective de tout est précisément désagrégée et désaffectée. Le besoin et la nécessité d'une valeur collective est d'autant plus éprouvée et partagée et désirée, d'autant plus tangible ce besoin d'agencement collectif, ce besoin d'énoncé collectif, d'autant plus tangible, d'autant plus nécessaire qu'il est divisé. Tout prend ainsi une valeur collective qui se dérobe sous nos pieds, que sont X, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que ce ne sont pas précisément des machines qui produisent des énoncés collectifs ? Certes, on pourrait dire que sur ces réseaux circulent la parole, les idées, etc. Et que derrière les milliards de data verbaux et numériques domine aujourd'hui une économie de la circulation des idées qui formerait un énoncé collectif. Eh bien, Stiegler pense que c'est le contraire qui se produit et que derrière ces milliards de données verbales et numériques domine aujourd'hui une économie mondiale dont cette circulation radicale d'un énoncé collectif dispersé et désagrégé est le signe de la décomposition dans laquelle nous vivons. On parle beaucoup, en effet, de la manière dont les réseaux sociaux et dont la manière dont ce qu'on appelle aujourd'hui la « data economy » est en train de désintégrer la démocratie et l'idée démocratique telle qu'elle apparaît vers le milieu du XVIIIe siècle. Nous y reviendrons peut-être. Troisième thèse, c'est cette idée d'une désagrégation collective qui est la désagrégation de la conscience collective. En effet, que sont les réseaux sociaux et qu'est la circulation massive de données verbales et numériques aujourd'hui, sinon tout sauf un sujet d'histoire. C'est plutôt le contraire qui se produit, c'est la fragmentation infinie, infinitésimale aussi, de l'idée collective qui est en train de se produire. En d'autres termes, on pourrait s'interroger aujourd'hui sur le fait que le fameux sujet de l'histoire qui a tant fait gloser les philosophes, hein, de Hegel jusqu'au révolutionnaire, jusqu'à Walter Benjamin, jusqu'au surréaliste et au situationniste, tous ces mouvements extrêmement radicaux, plus radicaux les uns que les autres et parfois accusés de nihilisme, eh bien ils avaient quand même en commun, il y avait un accord minimal sur le fait qu'il y avait un sujet de l'histoire et que l'un des buts de la pensée, de la philosophie, de la démocratie peut-être, de la circulation des idées, c'était de construire un sujet de l'histoire. Quel est le sujet de l'histoire de l'époque des réseaux sociaux? Y en a-t-il seulement? À vrai dire, le sujet de l'histoire aujourd'hui, c'est un sujet collectif qui est désagrégé, encore une fois, désaffecté, en voie de décomposition. Le sujet collectif désagrégé est à lui seul, aujourd'hui, le sujet d'une conscience collective, mais une conscience qui est plus conscience de sa propre désagrégation, de sa propre désintégration, de sa propre désaffection, comme le dit Stiegler, que tout autre type de conscience collective. Le maître mot, et je l'ai déjà dit dans une de mes chroniques précédentes, le maître mot qui a cours aujourd'hui, dans l'économie mondiale de cette massive économie qu'on appelle la data economy, l'économie des données personnelles, eh bien le maître mot de cette économie, en effet, c'est la disruption. Qu'est la disruption sinon la désaffectation et la désagrégation du sujet collectif, l'idée de détruire le sujet collectif pour le reconstruire à sa guise, c'est-à-dire régi par les lois du marché, eh bien c'est le programme de Mark Zuckerberg, de Jeff Bezos et de Elon Musk qui ont tous rencontré Donald Trump au cours des derniers jours et des dernières semaines. Au cours des dernières heures, Mark Zuckerberg a donné $1 million à Donald Trump et a annoncé qu'il se prêtait allégeance et qu'il se soumettrait à la volonté de Donald Trump. Musk, n'en parlons même pas. Il a, lui, donné un quart de milliard de dollars à la campagne de Donald Trump. Et Jeff Bezos est allé rencontrer Donald Trump dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride. Alors, ils sont eux, ces trois hommes, blancs, anglophones, ils sont, disons-le, chaque nom de l'histoire. Ils sont le temps historique actuel. C'est le temps de la désagrégation. Ils sont d'actualité, et ils sont l'actualité, cher à Emmanuel Kant à la fin du XVIIIe siècle, mais non plus, comme chez Emmanuel Kant, ils ne sont plus les sujets d'une histoire en cours d'élaboration. Ils sont plutôt des sujets de la destruction robotique du sujet collectif, à grands coups de régulation dérégulatrice, d'hallucination machinique, celle des algorithmes et de l'intelligence artificielle, et de bombardement de données incontrôlées. Il n'y a aucun accident au fait que Donald Trump utilise aujourd'hui Elon Musk et réciproquement afin de disruption démocratique des sociétés démocratiques européennes. Quatrième thèse, c'est l'idée que jamais dans l'histoire de l'humanité, jamais l'humanité n'aura été plus machinée. Et je dis machinée en utilisant un mot qui, bien sûr, est chargé d'une certaine ambiguïté. C'est l'ambiguïté inhérente à la machine, à savoir le fait que nous sommes des êtres profondément machinaux. Et la machine tient son origine étymologique. Machine, c'est pouvoir. Macht en allemand. Mögen, mag, ça vient de là. En allemand, c'est la capacité de pouvoir et la notion de puissance. Donc la machine donne puissance. Nous sommes des êtres, en vérité, profondément machinaux. C'est-à-dire que l'ontologie de la machine, c'est l'ontologie même, par exemple, nos habitudes. Toutes nos habitudes sont des habitudes, des routines, et qui sont plus ou moins machinales. Voilà. Le temps, notre temps est réglé non plus par la course du soleil depuis quelques siècles, mais par celui des aiguilles et des chiffres. Nous sommes dans l'âge numérique depuis bien longtemps qu'on ne l'imagine, dès que les horloges mécaniques sont inventées il y a plusieurs siècles. Et bien sûr, elles ont été remplacées par des horloges numériques et par même des horloges atomiques qui mesurent le temps à l'échelle des mouvements de l'atome. Alors l'ambiguïté qui fait de nous des êtres ontologiquement machiniques, des êtres machiniques par définition, ce qui définit l'être, c'est son côté machinique. Ne parle-t-on pas d'horloge biologique, par exemple, mais ça tient aussi au fait que nous sommes des êtres, comme je le disais tout à l'heure, machinés, c'est-à-dire des êtres intensément équipés, suréquipés de machines, d'outils machiniques, de machines-outils si performantes qu'elles sont précisément branchées sur nous, et même plus que branchées. En fait, toutes ces machines sont en nous, à l'intérieur de nous, inscrites biologiquement, neurologiquement et psychiquement à l'intérieur de notre chair, de notre corps propre. Nous sommes si radicalement machiniques qu'on ne compte plus les machines dont nous sommes dépendants entièrement. Certes, depuis bien longtemps, depuis le télescope, depuis le moteur à explosion, depuis l'horloge, je le disais tout à l'heure, et la caméra photographique ou la caméra cinématographique, jusqu'aux prothèses de déplacement que sont les automobiles et autres véhicules. Et maintenant, c'est la conscience elle-même qui est machinée et machinique avec les algorithmes et l'intelligence artificielle. Ceci pour rappeler que Elon Musk est le fondateur et le PDG d'une entreprise de neurotechnologie, Neuralink, qui a pour ambition de créer des prothèses technologiques opérant à l'échelle neurologique. Neuralink a reçu l'agrément de la Food and Drug Administration, de l'administration qui donne l'autorisation de développer des protocoles thérapeutiques et des essais cliniques. Neuralink a reçu l'aval des autorités fédérales américaines pour développer des expérimentations sur des humains en mai 2023. Faut-il rappeler ici, au titre de notre conscience historique blessée, que le philosophe disparu il y a quelques années, Paul Virilio, annonçait déjà que la clé dans l'histoire de l'invention des machines était une logistique de la perception dominée par la guerre et par le contrôle social. En particulier, le fait que les premières machines inventées sont en vérité des machines de vision, comme le télescope, qui avaient pour fonction de contrôler, d'opprimer et de torturer les esclaves forcés de travailler dans les plantations, comme le montre l'historien américain Nicolas Mirzoeff. Histoire des machines, des hommes machinés que nous sommes. Alors les machines, ça sert d'abord et avant tout à faire la guerre. Le philosophe Friedrich Kittler l'écrit dans son livre publié à Stanford en 1999, qui nous rappelle de son côté que, je cite, « l'histoire de la caméra cinématographique coïncide avec l'histoire des armes automatiques ». Vous avez peut-être en mémoire, ou vous avez peut-être connaissance, vous avez peut-être vu, lorsque vous avez visité le musée des arts et métiers à Paris, le célèbre fusil chronophotographique avec lequel, dès 1882, Étienne Jules Marais, un médecin qui était fasciné par le mouvement des animaux et voulait photographier le mouvement des animaux et des athlètes, Étienne Jules Marais, qui à l'aide d'une véritable machine à photographier en rafale, décompose et analyse le mouvement vivant en le découpant en tranches de photogrammes. Il est l'inventeur de la caméra cinématographique, probablement. Le cinéma, justement, véritable machine de l'âme, substitut machinique et machinal de notre conscience, de nos premiers souvenirs. Nos souvenirs ne sont-ils pas aujourd'hui, par essence, toujours photo-filmiques? Et le cinéma, bien sûr, puisque nous sommes des êtres machinés, serait peut-être la machine par excellence de notre temps. Le cinéma, qui est l'événement machinique majeur du XXe siècle, nous sommes dans l'âge, dans l'ère cinématographique, cinématique, une ère qui est marquée, nous le savons, par la confusion entre l'utilisation des caméras à des fins de cinéma, mais aussi des caméras à des fins de surveillance, et maintenant avec les drones tueurs, par exemple, à des fins de destruction, de guerre et de law enforcement, comme on le dit aux États-Unis. Il y a des protocoles en cours d'élaboration et d'expérimentation aux États-Unis qui couplent l'intelligence artificielle avec les drones tueurs afin de réagir de façon donc cinématographique avec des caméras tueuses afin de réagir plus vite que les policiers humains en cas de trouble ou de crime perpétré. Toute cette technologie est déjà au point, elle a été utilisée, les machines ça sert à faire la guerre, disais-je, elle a été utilisée, cette technologie, en Afghanistan et en Irak par l'armée américaine. Cinquième thèse. Alors, c'est la thèse dans laquelle il est moment, il est temps d'évoquer ce phénomène de substitution. Je disais tout à l'heure que la machine fait corps, la machine fait partie du corps. Eh bien, la machine est aussi en phase de substitution vis-à-vis de la conscience, à savoir que la conscience n'est plus seulement traversée, mais littéralement fabriquée et créée par le complexe industriel et cinématographique. Et c'est-à-dire, pour en revenir à ce point que j'évoquais tout à l'heure, qu'on ne peut pas séparer les technologies cinématographiques, y compris les technologies létales et les technologies de contrôle de la conscience, que sont les réseaux sociaux et l'utilisation des réseaux sociaux par les manias de ces mêmes réseaux. Eh bien, l'idée que nous en revenons à cette notion de désagrégation collective dont je parlais plus haut au titre d'une substitution. Nos réseaux sociaux et nos algorithmes, l'intelligence artificielle, seraient une forme de conscience, de psychologie, de remplacement. Si bien qu'on ne sait plus distinguer entre nos pensées intimes et la manière dont elles sont immédiatement documentées, publiées, streamées, live streamées, n'est-ce pas, diffusées en direct via les réseaux. Alors encore une fois, c'est éminemment cinématographique tout ça. Et pour en revenir à ce point, donc la désagrégation collective dont je parlais plus haut, nous sommes de plus en plus machinés, et nous sommes plus machinés et machinaux que jamais, et c'est à l'image de l'exemple de Euralink que je citais tout à l'heure, c'est parce qu'il y a en vérité une disparition, un effacement, tendance à l'effacement, à la fusion de l'écart classique, c'est-à-dire de la coupure entre la machine et ce qu'on appelle traditionnellement le corps propre, le corps vivant, le bio ou le bios. Donc l'écart entre la machine et nous n'aura jamais été aussi petit, infime et infinitésimal que jamais. Et ce n'est plus seulement donc de dépendance, comme je le disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je disais que nous étions dépendants à la machine, dépendants vis-à-vis des machines, que nous ne pouvons plus vivre sans des machines, mais plutôt que nous sommes en train d'assister à une fusion, en tout cas au moins une confusion, dans laquelle on ne peut plus distinguer le vivant, le corps vivant. Ce corps dont Descartes disait déjà au XVIIe siècle, à l'époque des premiers télescopes et des premières lanternes magiques, qu'il est aussi un corps-machine. Ce corps-machine, aujourd'hui, ne connaît plus la différence, si elle a toujours existé, entre cela, justement, qu'on distingue sémantiquement entre le corps et la machine. Un exemple, eh bien, ce qu'on appelle aujourd'hui « datanomics », n'est-ce pas ? L'économie des « data », des « data », l'économie des données personnelles. Pour le dire brièvement, ce qu'on appelle « data » aujourd'hui, les données personnelles, ont acquis une valeur commerciale qui est maintenant supérieure à celle du pétrole sur le marché mondial, d'après les Nations Unies, dans un rapport de 2019. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que précisément le corps-machine, la machine fait corps, la machine fait corps avec la société et avec le corps social, et qu'on ne peut plus distinguer l'économie, qui est un terme qui se rapporte étymologiquement à l'entrée et à la sortie des matières, des données et de la consommation domestique. On ne peut plus distinguer le domestique du public dans une fusion générale de data, de données personnelles, qui font corps avec leurs conditions machinales ou machiniques. Thèse numéro 6, l'idée que la machine fait corps et que la machine fait corps des robots, ou la machine faisant corps dans la dystopie de Neuralink de Elon Musk, ou dans celle de nos vies contrôlées ou hyper-contrôlées par la biopolitique des données personnelles, de plus en plus sophistiquées au point qu'elles jouent un rôle majeur dans les processus électoraux modernes, ces machineries omnipotentes, le philosophe Jacques Derrida, disparu il y a quelques années, disait qu'elles sont coupées autant que coupantes, au regard du présent vivant, de la vie et du corps vivant, je cite. Je cite toujours, « La machine, écrivait Derrida, est un effet de coupure, autant qu'une cause de coupure. » Alors oui, s'il y a fusion entre le corps et la machine, si le corps, qui était déjà une machine d'après Descartes, est de plus en plus machiné ou machinal et contrôlé par des machines, en tout cas dans l'utopie ou la dystopie de Neuralink, c'est un peu cela, eh bien la machine, ne l'oublions jamais, est toujours ce qui coupe. et que même dans la fusion la plus fusionnelle qu'il puisse imaginer, la coupure est toujours là, nous rappelle Jacques Derrida. Et c'est même dans l'étymologie de la machine pour Derrida. La machine, ne l'oublions jamais, nous dit Jacques Derrida, c'est ce qui coupe. C'est fait pour couper. Et l'origine ultime de la machine, c'est justement la coupe. Alors comment est-il possible, et c'est ça le point de cette sixième thèse, comment est-il possible que la machine qui est notre être même, notre ontologie même, nous sommes des corps-machines, comment est-il possible que la machine soit aussi ce qui nous coupe? Dans cette ontologie de la machine, pourquoi tout ceci a une importance aujourd'hui? C'est la thèse numéro 7. Pourquoi est-ce aussi important? Eh bien, précisément parce que c'est au cœur de cette idée de la machine qui coupe et qui à la fois est notre être fondamental, notre ontologie, c'est-à-dire notre condition fondamentale, eh bien, c'est l'idée qu'on n'échappe pas au destin coupant de la machine, à commencer par la machine radiophonique que j'utilise ici, dans un temps qui est venu précisément de ne pas oublier cela, de ne pas oublier que le destin et la destinée, la vocation de la machine, c'est d'être une machine d'oubli, une machine à oublier. Et c'est ça la coupe la plus retorse à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Parce que la machine est coupée ou soit coupante, on l'a toujours plus ou moins su. Derrida écrivait ceci dans les années 60. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est l'invisibilisation de la coupe. Un peu comme au cinéma. Il y a certaines coupes au cinéma qui sont rendues invisibles par l'art de la coupe. J'ai commencé cette chronique par une citation du cinéaste Sergei Eisenstein. Cette figure de la coupe et de la coupure des machines contemporaines, c'est cette notion de substitution dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que on pense penser par soi-même et en fait on est pensé par tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous est bombardé au titre des données, des data dont je parlais tout à l'heure. Et on pense penser par nous-mêmes alors que nous pensons en fait réseaux sociaux, nous pensons aux réseaux sociaux, nous pensons à travers les réseaux sociaux, nous sommes la pensée des réseaux sociaux. En tout cas, c'est ce que nous dit cette prolifération énorme des données personnelles dont je disais tout à l'heure. Les réseaux sociaux en sont un symbole, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Cette massification des données personnelles qui font que les données personnelles ont plus de valeur sur le marché mondial, en économie, dans l'économie mondiale, que le pétrole. Cette invisibilisation de la coupe. Voilà, c'est ça. Que sont ces effets de coupure extrêmement retors aujourd'hui qui font que nous sommes coupés les uns des autres sans nous en rendre compte. Nous avons l'illusion d'être en permanence en contact les uns avec les autres, alors qu'en vérité, les réseaux sociaux, et nous le savons, il y a des études médicales, provoquent un problème de santé publique majeur qui opère justement autour d'une notion de la coupe. C'est la coupe qui nous préoccupe ici, qui nous préoccupe, si on veut dire. Alors, voilà, les réseaux soi-disant sociaux opèrent aujourd'hui, mais aussi en nous, à l'intérieur de nous, en nous-mêmes. Leur travail retors, comme un ver qui travaille sous la peau du fruit, en nous coupant de notre mémoire. Et qui n'a pas été pris de vertige devant la puissance d'oubli des réseaux sociaux, de nos éphémères albums photos et vidéos numériques possédés et volés par le cloud? En fait, quand c'est sur le cloud, vous le savez, vous n'êtes plus propriétaire du contenu. Qui n'a pas philosophé ou vécu dans l'angoisse de ses amis qui vous ghostent, qui vous font disparaître en vous maintenant vivant mais absent de leurs contacts et de leurs engagements numériques, bien sûr. Et qui n'a pas été pris de vertige vis-à-vis devant les survivances numériques de ses amis morts qui continuent, grâce à l'algorithme, à nous envoyer des posts sur les réseaux sociaux ou sur les collectifs dont nous sommes membres dans l'économie numérique. J'ai une amie morte depuis plusieurs années dont je reçois toujours des articles universitaires, soi-disant nouveaux, alors qu'ils sont des publications anciennes désormais. Et évidemment, à chaque fois, je suis saisi par le fait qu'il n'y a pas de mort numérique. Ce qui coupe ici, c'est le fait que, justement, dans l'économie numérique, il n'y a pas de mort. Et comme il n'y a pas de mort, eh bien, il y a une puissance d'oubli qui est littéralement abyssale ou vertigineuse. Alors pourquoi on parle de tout ça? Eh bien, c'est la huitième thèse. Je citais le philosophe Gilles Deleuze il y a un moment, et je me demandais, avec lui, maintenant, ce qu'il pourrait en être d'un être collectif, d'un sujet collectif, c'est-à-dire de ce qu'il appelle Deleuze un agencement de désir et une sublimation collective qui échapperait un moment à nos destins machiniques et machinés. Est-il possible, est-il jamais possible d'échapper, non pas tant au machinisme et aux machinations qui sont notre condition humaine, notre condition vivante, mais d'échapper au caractère immémorial des destructions de la mémoire invisible que cette machination numérique provoque et aussi propose. Ce serait l'idée d'une machination théâtrale, littéraire, poétique, donc peut-être aussi révolutionnaire en quelque sorte, qui nous permettrait d'échapper à l'inconscience numérique. Cette inconscience qui fait que, on le sait aujourd'hui, les processus électoraux récents, et ça n'échappe pas à Elon Musk qui investit beaucoup numériquement sur le marché politique et électoral européen depuis quelques jours, c'est cette idée que la conscience collective est de façon invisible détruite par la manipulation numérique. Alors, c'est aussi pour ça que peut-être de façon rétrograde, d'une certaine façon, je tiens à ces chroniques radiophoniques qui échappent à la logique des réseaux, à l'ancienne donc, ces chroniques vivantes. C'est aussi ce qui m'amène à peut-être conclure cette chronique un peu hors du temps par rapport aux autres. Nous reprendrons peut-être le fil des chroniques plus actuelles dans quelques jours, après l'inauguration de Donald Trump le 20 janvier. C'est ce qui m'amène à citer Jacques Derrida, disparu il y a environ 20 ans. Il était mort en octobre 2004. Derrida, mort il y a une vingtaine d'années. Et Gilles Deleuze, mort en 1995. Donc je cite des morts. Avoir la mémoire des morts, n'est-ce pas justement déjà toujours, de façon poétique toujours, de façon théâtrale ou littéraire, donc de façon révolutionnaire, réveiller des noms de l'histoire qui renvoient à des sublimations collectives échappant à la violence machinique. Y a-t-il une mémoire hors machine ? C'est la question. Alors Derrida nous répond. Je cite. « La machine est mort. Elle est la mort. Non parce qu'on risque la mort en jouant avec les machines, mais parce que l'origine des machines est le rapport à la mort. » Dans l'écriture et la différence, 1967. Et maintenant Gilles Deleuze, qui nous rapproche un peu plus de cette notion de désir d'agencement collectif, cette notion d'agencement par lequel j'ai commencé la chronique en citant le cinéaste Eisenstein, qui savait bien ce que c'est que d'agencer un film, c'est-à-dire de monter un film. Qu'est-ce que c'est un film d'après Godard ? Eh bien c'est quelque chose, c'est un objet artistique qui, loin d'effacer la mémoire, comme la plupart de nos réseaux sociaux ou parfois la télévision, bref, du flux, c'est couper le flux. C'est cet art de la coupe, cette fois visible et audible, du flux phénoménal des enchaînements. Le cinéma propose des enchaînements d'associations, des agencements. Des enchaînements d'associations, Eisenstein, et des agencements, Deleuze. Deleuze, voilà. Citons Deleuze pour conclure. Deleuze qui écrit dans son célèbre Kafka, qu'il signe avec Félix Guattari. La machine littéraire prend ainsi le relais d'une machine révolutionnaire à venir. Non pas du tout pour des raisons idéologiques, mais parce qu'elle seule est déterminante et déterminée à remplir les conditions d'une énonciation collective qui manque partout ailleurs, dans ce milieu. California, my sweet home.